Bonjour à tous. À la une, baroud d'honneur ou résurrection, les gilets jaunes sont de retour dans les grandes villes françaises. Interpellation à Paris ce matin, ils dénoncent des conditions de vie encore empirées par le coronavirus, vous l'entendrez. Le coronavirus et ses conséquences vraies ou fausses, le numéro 1 de la CGT dénonce des plans sociaux d'aubaine et la Guadeloupe, elle, est sous couvre-feu. Dans l'actualité aussi, l'appel de politique et de famille à rapatrier les enfants français de djihadistes. Le Tour de France, 14e étape, est l'arrivée dans une ville un peu hostile, celle de Lyon. Armelle Lecléache en tête de la solitaire du Figaro, c'est de la voile, la prescription culture, la foire Art Paris, malgré tout, l'art résiste à l'épidémie. Et dans Secret d'Info, Jacques Monin ?
Eh bien, une enquête sur les escroqueries conduites par des franco-israéliens depuis Israël, de la taxe carbone au faux Jean-Yves Le Drian, elles se sont multipliées au point que les autorités des deux pays les prennent très au sérieux.
À tout à l'heure, Jacques, Secret d'Info, c'est donc tout à l'heure à 13h20 sur Inter.
France Inter.
Le mouvement des Gilets jaunes va-t-il renaître après de longs mois de silence, des mesures sociales et un confinement? C'est la question aujourd'hui avec la reprise des manifestations à Paris et dans plusieurs grandes villes françaises. Premier défilé ce matin dans les rues de la capitale. Quelques centaines de personnes, place de la Bourse, quelques centaines aussi, place Wagram, rassemblement interdit aux Champs-Élysées. À midi, déjà on comptait 128 personnes interpellées, 27 en garde à vue, même dans les cortèges autorisés. La tension commence à monter entre forces de l'ordre et Gilets jaunes, tirs de gaz lacrymogène et tentative d'encerclement. Vous êtes place Wagram, joli Pietri, bonjour. Les manifestants sont d'autant plus remontés sans doute que leur situation ne s'est pas améliorée ces derniers mois.
Et Jérôme Rodriguez, l'un des visages des Gilets jaunes, le dit d'ailleurs sans détour.
Paradoxalement, le Covid, c'est notre meilleur allié. Il n'a fait que mettre en avant tout ce qu'on peut dénoncer aujourd'hui en France.
Parce qu'il a révélé encore plus la précarité d'une partie de la population et, estime-t-il, la défaillance de l'État.
Je suis obligé de bouffer des pâtes à la fin du mois, du jambon, et j'en ai marre le cul de ce président de merde.
Michael, chauffeur routier, 1500 euros par mois et 2 ans de mobilisation.
Il faudrait plus de monde dans les quartiers, dans les rues à gueuler, pour qu'au moins qu'ils comprennent que les gens en ont marre de souffrir comme ça à la fin du mois.
Ici, les gilets jaunes ne portent en fait plus ou presque de gilets jaunes. L'habit a été en grande partie délaissé par les manifestants.
La couleur jaune est tellement bannie, on ne veut plus voir de jaune à Paris, on ne veut plus. Donc maintenant, on vient normal, comme ça on est des citoyens en colère. Mais on est gilets jaunes.
Quand on vient avec en fait, un signe jaune,
on se fait verbaliser,
on se fait maltraiter aussi.
Ma Sabine, ex-ouvrière chez Renault, qui ne parvient pas à retrouver du travail, manifeste aujourd'hui avec Nathalie, qui nettoie et sert à manger dans une cantine scolaire du nord de la France.
Avec la crise, tout ça, et le Covid, terminé. On a trop de mal à retrouver du travail. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien pour nous.
On paye toujours aussi d'autant de taxes. Et à un moment donné, on n'arrivera plus à se nourrir. Ça devient invivable, on n'y arrive plus.
Au mouvement d'aujourd'hui, se sont greffés des petits patrons de discothèques dont les établissements restent fermés et des chauffeurs VTC qui expliquent que leur travail avec la raréfaction de la clientèle est devenu encore plus compliqué.
Julie Pietri avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau sur la place Wagram à Paris. D'autres manifestations sont attendues cet après-midi. Celle de Toulouse est interdite. On aurait aimé un peu plus d'annonces, la réaction d'un représentant des biologistes après l'intervention du Premier ministre hier. Jean Castex en appelait à la responsabilité. Il annonce des tests pratiqués en priorité sur les personnes sensibles. Une 14aine d'isolement qui devient une semaine et le pouvoir pour les autorités locales de décider de restrictions. Objectif, ralentir la progression de l'épidémie dans le pays. 9406 nouveaux cas en 24 heures. Et il y a des messages parfois un peu flous, estime de son côté. Philippe Martinez, invité de France Inter ce matin, réclame des plans de protection cousus main pour les salariés, des pauses pour ceux forcés de porter le masque toute la journée. Il dénonce aussi les suppressions d'emplois présentées comme des conséquences de la pandémie et qui 3 fois sur 4 n'en sont pas, selon lui.
Vous regardez ce qui se passe chez Auchan, par exemple. 1500 suppressions d'emplois. Tout le monde sait que le secteur de la distribution, et notamment distribution alimentaire, n'a pas souffert de la crise du Covid et du confinement. Bien au contraire, il devrait y avoir un veto du gouvernement sur ce genre de licenciement. Mais on pourrait prendre le cas de l'aéronautique. Airbus a reçu des aides. Le problème de l'aéronautique aujourd'hui, c'est que les avions ne volent pas. Mais les carnets de commandes sont pleins chez Airbus. Il y a plus de commandes aujourd'hui qu'il n'y en avait l'année dernière. Or, là aussi, on a donné de l'argent. Et plutôt que de trouver des mesures, on pourrait parler de formation, il y a le chômage de longue durée, etc. Ben on licencie, ce qui va amputer la capacité de l'entreprise et donc de ses salariés de préparer l'avenir.
Vous demandez quoi exactement ?
Je te donne de l'argent ou je te prête de l'argent à condition que tu trouves d'autres mesures que le licenciement de tes salariés. Or, de ce point de vue-là, on parle de contreparties, mais les contreparties, on verra plus tard.
Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT avec Alexandra Ben Saïd sur France Inter ce matin. Il justifie donc la grève du 17 septembre car les salariés doivent selon lui se défendre. Et à propos des conséquences économiques de la Covid, elle les a prises de plein fouet. La Croix-Rouge, habituée à faire face à l'urgence, se retrouve elle-même en situation d'urgence. L'association démarre aujourd'hui sa quête nationale, décalée cette année pour cause de coronavirus. Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge, est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Alors très clairement, Monsieur Combe, avec cette épidémie aujourd'hui, vous avez besoin d'argent à la Croix-Rouge.
On a besoin d'argent. C'est vrai que ces journées nationales, c'est une tradition en France. Chaque année, la Croix-Rouge française va au-devant de la population sur les territoires. Mais cette année est particulière. On est comme toutes les organisations. On a été fortement impacté d'un point de vue économique par la crise. Et parallèlement, on a assisté à l'explosion des besoins. La Croix-Rouge a été mobilisée pendant des semaines et des mois pour venir aider, pour venir et faire face à la crise Covid, pour aider les personnes malades, pour soutenir les hôpitaux, pour venir en aide aux personnes en situation de précarité ou victimes d'isolement social. Donc on a besoin aujourd'hui du soutien des Français pour continuer nos actions.
Impacté d'un point de vue économique, dans quelle mesure en fait? Vous avez des chiffres?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on estime que pour faire face aux besoins, pour continuer notre mobilisation, d'ici à la fin de l'année, on souhaite récolter environ 15 millions d'euros pour pouvoir faire face aux besoins auxquels nos bénévoles répondent au quotidien, en proximité, sur le territoire.
Et cette quête traditionnelle de la Croix-Rouge, elle représente combien dans votre financement habituellement ?
Habituellement, on collecte chaque année entre 3 et 4 millions d'euros pendant cette semaine de journée nationale. C'est un moment qui est important parce que au-delà du don, nos bénévoles vont présenter l'association aux citoyens, vont essayer de susciter de l'engagement, du bénévolat. On a besoin de bénévoles au sein de notre organisation, puis c'est aussi l'occasion de passer un certain nombre de messages. On l'a vu pendant la crise, la solidarité de proximité, elle est essentielle aujourd'hui pour faire face aux crises. Et puis aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale des premiers secours. C'est une façon de passer un message clair aux Français. Chacun peut sauver des vies. Il faut se former pour être en capacité d'aider sa famille, d'aider ses proches. C'est extrêmement important.
On reparlera des premiers secours peut-être un peu plus tard. Mais d'abord, disons aux auditeurs qui vont croiser aujourd'hui vos bénévoles en cape rouge, hein, comme des super-héros un petit peu. C'est vrai que vos activités, elles ont changé avec la Covid-19. Vous parlez d'une augmentation de la demande, une augmentation, j'ai lu 40%.
Ouais, c'est plus de 40% de demandes en termes d'aide alimentaire. On a, dès le début de la crise et du confinement, toute une partie de la population qui a sombré dans une précarité importante. Donc on a vu arriver dans nos unités locales de nombreuses personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir au fur et à mesure de la crise. Il y avoir des commerçants, des artisans, des personnes voilà qui étaient impactées directement par la crise sanitaire et la crise économique qu'elle engendre. Et cette crise, elle risque de s'installer dans la durée.
Et donc vous avez mis en place de nouveaux services, vous avez redéployé vos activités avec notamment un dispositif d'écoute et de livraison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit en fait?
Alors c'est Croix-Rouge chez vous, on a créé 5 jours après le début du confinement en fait un numéro vert, un numéro d'appel téléphonique ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h pour apporter de l'écoute, du soutien, mais aussi des livraisons de produits de première nécessité, de la nourriture, des médicaments, des produits d'hygiène auprès de personnes isolées à domicile, souvent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas bénéficier de la solidarité de proximité dont je parlais tout à l'heure, de leurs voisins, de leur famille, ou même de tout un tas de services qui se sont arrêtés pendant un moment, pendant ce confinement.
Et ça marche? Enfin, il y a une véritable demande pour cette nouvelle...
Alors, on a tout à fait, on a eu plus de 200 000 appels pendant la durée du confinement. Ce numéro est toujours d'actualité. Évidemment, les gens nous appellent. On a vu pendant la crise voilà des situations dramatiques, hein, de personnes isolées qui ne se nourrissaient pas, qui n'avaient plus de médicaments, qui avaient peur aussi, mais qui restaient isolées chez elles, je pense aux personnes fragiles. Et donc ce soutien, il est plus nécessaire que jamais. Parfois juste voilà un contact, une écoute, ça fait la différence.
Est-ce que ça veut dire que vous avez dû abandonner rapidement? Est-ce que ça veut dire que vous avez dû abandonner d'autres activités?
On a redéployé nos activités sur les missions d'urgence.
Qu'est-ce que vous ne faites plus en clair?
En fait, ce qu'on fait plus, c'est des choses qui, ce qu'on ne faisait plus pendant la crise, c'est des choses qui étaient très en contact avec le public, des choses qui répondaient pas forcément à la situation d'urgence. Voilà, je sais pas, je donne par exemple l'apprentissage de la langue française. Voilà, c'était pas ça répondait pas à un besoin vital dans l'immédiat. On s'est vraiment concentré sur le soin, sur le soutien aux hôpitaux, sur la distribution d'aide alimentaire.
Merci Jean-Christophe Combes. Et pour ce qui est des gestes qui sauvent, je disais qu'on allait en parler plus tard, nous n'avons pas eu le temps, mais les Français, nos auditeurs vont pouvoir rencontrer les bénévoles de la Croix-Rouge qui vont expliquer les gestes qui sauvent et comment ça marche avec l'épidémie de Covid et les gestes barrières, comment tout cela est compatible. Merci Jean-Christophe Combes, directeur général de la Croix-Rouge. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Pour ce qui est des restrictions liées au coronavirus au niveau local, Marseille, Bordeaux, la Guadeloupe sont préoccupants. D'après le Premier ministre Jean Castex, les restaurants et bars de Guadeloupe sont sous couvre-feu dès ce soir à minuit, 22h en semaine. Mais c'est toute une série de restrictions qui se met en place. Alexandre Rochat, préfet de Guadeloupe, s'en explique.
J'ai effectivement décidé des mesures de fermeture d'établissements, des salles des fêtes, des salles polyvalentes qui sont loués pour les mariages, par exemple. Et on s'est aperçu que c'était à l'occasion de ces festivités qu'on découvrait un grand nombre de cas contacts.
Les événements sportifs se dérouleront désormais à huis clos. Les bars et restaurants fermeront plus tôt.
Oui, exactement. L'objectif de la mesure de fermeture plus tôt des bars et des restaurants, c'est à la fois de restreindre les possibilités, effectivement, de se retrouver entre amis et de ne pas faire attention aux gestes barrières et donc de se contaminer entre jeunes principalement, mais pas seulement. Et puis, ça a un autre objectif, c'est d'éviter de prendre la voiture quand on a bu de l'alcool et donc de se retrouver en situation d'avoir un accident de la route. On a 20 personnes en réanimation pour Covid et il est extrêmement important qu'à l'hôpital, nous n'ayons pas une surcharge d'activité, notamment liée à des accidents de la route.
Le préfet de Guadeloupe sur Guadeloupe, la première. Et pour clore cette page consacrée au coronavirus, l'adieu à une légende du reggae. Le Jamaïcain Frédéric Nathaniel Hibbert, dit Toots Hibbert, chanteur du groupe Toots and the Metals, est mort hier soir à l'hôpital de Kingston en Jamaïque, victime d'une forme sévère de Covid-19. Toots avait 77 ans. C'est à lui et son groupe qu'on doit tout simplement l'invention du mot reggae. L'adieu en musique au chanteur de Toots and the Metals, mort en Jamaïque. Hier, l'épidémie de Covid-19 a fait 910 000 morts dans le monde.
Le journal de 13h sur France Inter.
La police tire aux lacrymogènes sur les migrants de l'île de Lesbos en Grèce. Eux lançaient des pierres sur les forces de l'ordre pour exiger des abris suite à l'incendie du camp de Moria cette semaine. Plus de 11 000 personnes sont sans abri depuis 4 jours. Beaucoup sont des enfants. Laisser des enfants mourir de faim et de soif et de mauvais traitements dans des camps en Syrie, c'est indigne de notre état de droit. Le collectif des familles unies écrit au président de la République pour réclamer le rapatriement de 200 enfants français aujourd'hui retenus en Syrie auprès de parents djihadistes. Rassemblement à 14h30 à Paris et tribune dans le journal Aujourd'hui en France, Le Parisien. Raphaël Glucksmann ou encore Yannick Jadot, Clémentine Autain parmi les signataires, mais aussi Pierre Morel à l'huissier, député UDI de Lozère qui dénonce la politique du cas par cas.
La France a signé des conventions internationales sur la protection des enfants. On parle des enfants. À un moment donné, ça transcende toutes les autres règles. Et je ne comprends pas qu'un État français, qu'un pays comme la France puisse craindre de rapatrier femmes et enfants, alors même que si on les laisse là-bas, elles vont être récupérées par Daesh et les enfants vont devenir des enfants soldats. Ça devient insupportable. Je regrette que nous soyons obligés aujourd'hui de faire des pétitions, de faire des appels, alors que ça va dans le bon sens. On est aujourd'hui dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut sortir des débats droite-gauche, etc. Il faut préserver ces enfants et au-delà, les mères de famille savent qu'elles peuvent rentrer en France et qu'elles seront jugées. Donc, à un moment donné, c'est au président de la République de prendre ses responsabilités une bonne fois pour toutes.
Le député UDI de Lozère, Pierre Morel, à l'huissier, joint par Lionel Thompson pour France Inter. Pour certains, c'est un accord historique, pour d'autres, une trahison. Un accord de normalisation des relations vient de se nouer hier soir entre Israël et le Bahreïn, tous les deux hostiles à l'Iran. Cela les a peut-être rapprochés. Téhéran qui accuse aujourd'hui le Bahreïn d'être, je cite, « complice des crimes d'Israël ». Grrr, l'équipementier sportif allemand Puma a une nouvelle tête d'affiche. Il s'agit du footballeur brésilien Neymar qui abandonne donc la marque Nike après 13 ans de relation et une petite centaine de millions d'euros. Le sport côté route, c'est ce Tour de France macho et pas éco-responsable. Ça, c'était les propos du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, polémique depuis mercredi. L'Association française des coureurs cyclistes désapprouve ce matin et c'est dans ce contexte que la Grande Boucle fera étape à Lyon ce soir, arrivée après 194 km depuis Clermont-Ferrand et forcément dans une drôle d'ambiance, Mathilde Imberti.
Les réserves du maire de Lyon laissent perplexes les fidèles au poste sur le parcours du Tour.
Donc oui, c'est exagéré, hein, oui. Oui. Les gens qui ne se déplacent pas beaucoup, ils sont contents d'être là et de voir, même ne serait-ce qu'une tête.
Oh oui, polluant, mais n'importe comment, ça sera notre coin ici.
Le Tour de France véhicule une image machiste du sport et n'est pas éco-responsable, a déclaré précisément le maire écologiste Grégory Doucet. C'est une bêtise, commente son voisin Pascal Charmeau, maire LR de Tassin-la-Demi-Lune.
C'est de l'aveuglement idéologique. C'est surtout du patrimoine à la fois culturel, je pense, le Tour de France, autant que sportif. Et c'est en cela qu'il est important de pouvoir le soutenir. Et nous sommes très heureux, encore une fois, de l'accueillir aujourd'hui.
Les critiques pleuvent. La ville de Lyon, elle, argumente avec l'adjointe au sport, Julie Nublafort.
Alors, Grégory Doucet n'a pas dit que ça. Il a quand même rappelé aussi les éléments positifs de cette fête populaire. Mais évidemment, on pense qu'il y a des choses à revoir. Il n'existe pas, enfin plus, on va dire, de véritable Tour de France féminin. Et sur le plan de l'éco-responsabilité, on aimerait que, par exemple, il ne soit pas sponsorisé par des entreprises qui activent une surconsommation aussi.
Lyon qui veut porter un Tour de France féminin et plus éthique, idéalement pour une édition dès 2021. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
La course sur mer maintenant et les meilleurs marins français rassemblés en ce moment sur les flots. Troisième étape de la course entre Dunkerque et Saint-Nazaire. Et une fois n'est pas coutume pour la solitaire du Figaro, tremplin des jeunes générations. Cette fois, ce sont les plus chevronnés qui mènent le jeu avec Armel Lecléache, vainqueur du Vendée Globe, qui est en tête du classement général, Jérôme Val.
Quand il est comme ça, il fait peur. Le compliment est signé Gilles Damahé, 10e au classement général à propos de celui qui mène la flotte de cette 51e édition. Armel Lecléache, celui que l'on surnomme le chacal, écrase la course. Victoire dans la deuxième étape et une place de leader. Course presque parfaite pour celui qui, il y a 4 ans, remportait le Tour du Monde en solitaire.
Une belle victoire d'étape avec la manière. Surtout d'être en harmonie avec le bateau, avec la stratégie, avec ce que je voulais faire sur l'eau. Et ça m'a mis en confiance pour la suite. Je ne peux pas être mieux placé, c'est sûr.
Armel Lecléache a remporté 2 solitaires du Figaro. Yann Eliès, lui, en a déjà 3 à son palmarès. Le navigateur de Saint-Brieuc n'est pas loin derrière, à 50 minutes du leader. Revoilà donc les tontons skippers, alors qu'une jeune génération de marins pointe le bout de son nez chaque année. Et ce n'est pas pour déplaire à Yann Eliès.
Justement, le fait d'être un vieux briscard, ça permet aussi de pas trop se monter le bourrichon et de rester humble. Le 20e est qu'à 1 heure. Voilà, je peux vite me retrouver 20e aussi rapidement. Donc, on va attendre confirmation. En tout cas, ça nous fait bien rire et on aimerait bien que ça reste comme ça.
La troisième étape s'annonce décisive. Un parcours côtier avec le contournement de la Bretagne et les plus forts courants d'Europe. Une étape qui peut consacrer une nouvelle fois les vieux briscards de la flotte.
On départ cet après-midi à 17h. Et si vous ne suivez pas le Tour de France ou la solitaire du Figaro ce week-end, eh bien, voici notre prescription culture. Malgré la Covid, Art Paris Grande, foire d'art moderne et contemporain, se déroule ce week-end dans la capitale. 112 galeries sous le soleil qui pointent ses rayons par la verrière du Grand Palais. Cette année, le virus a quand même beaucoup dissuadé les galeries et collectionneurs étrangers. Qu'à cela ne tienne, coup de projecteur avec vous sur nos créateurs français, Isabelle Pasquier.
Les artistes français n'ont pas à faire de complexe face aux Américains, aux Asiatiques. Avec talent et audace, aujourd'hui ils sont connectés à une scène internationale mondialisée. À Art Paris, on s'immerge dans les tapisseries délirantes de Laure Prouveau, dans les paysages calligraphiques d'Alexander Benchama et devant les photos de Valérie Belin. Devant nous, le visage d'une femme, le regard vide d'un mannequin, mais en guise de maquillage, la violence d'une peinture noire qui trahit ses états d'âme. L'objectif de la plasticienne, démonter les stéréotypes qui nous asphyxient.
Dans mon travail, la figure humaine en fait est une sorte de surface sur laquelle les symptômes de l'époque se transmettent ou s'incarnent. Les symptômes d'une maladie sociale, je pense notamment à des séries comme Les sosies de Michael Jackson ou même celle des mannequins d'agence. Pour moi, la figure humaine est le lieu du paradoxe de nos existences. Paradoxe dans le sens où il y a toujours 2 choses contraires qui se rencontrent dans ces visages. À la fois quelque chose qui a trait au vivant et quelque chose qui va dans le sens inverse, à travers notamment les notions de stéréotypes.
Et pour une pause méditative, l'œuvre de Philippe Cogné, qui après avoir peint des HLM et des supermarchés, crée des forêts floutées. Il réussit à fixer l'impermanence de la vie, fascinant.
Art Paris, c'est jusqu'à demain soir au Grand Palais et c'est la prescription culture de France Inter. Et à 13h20 sur Inter, un coup d'œil vers le ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
C'est presque estival, Jean-Michel Golinski.
Du soleil et des températures de plus en plus élevées ces prochains jours. Déjà cet après-midi, les valeurs vont facilement atteindre 30 à 32 degrés dans l'est et au sud de la Loire. Sur les régions plus septentrionales, l'ambiance va rester un peu plus fraîche, mais avec des valeurs supérieures ou égales aux moyennes. Avec une vingtaine de degrés le long de la Manche, il fera 23 à Lille, 24 sur le pays rennais, 26 du bassin parisien à la Champagne et 27 à 28 degrés près de la Loire. Avec un large ensoleillement sur l'ensemble du pays, mais possiblement quelques gouttes sous ondées sur le massif alpin. Demain, hausse générale des températures entre 25 et 30 degrés dans la partie nord, jusqu'à 36 en vallée du Rhône et sur la Nouvelle-Aquitaine. Et lundi, il fera encore plus chaud, aux environs de 33 degrés en moyenne, au nord comme au sud.